Chapitre 11. Les versets 1 à 4 donnent le fil de l'histoire. Cette histoire de l'Empire grec se rattache à celle de la Perse, qui n'a pas d'autre importance ici. Puis nous voyons la monarchie des Grecs, divisée en quatre parties après son établissement par le premier puissant roi Alexandre. Nous en avons eu déjà quelques aperçus. Les deux principaux chefs de cet empire étaient le roi du Nord et le roi du Midi. Ils n'étaient pas les principaux chefs de l'Empire, eu égard à leur puissance seulement, mais eu égard au peuple de Dieu, parce que c'était toujours l'un ou l'autre de ces deux pouvoirs qui possédaient le pays de Canaan, la terre sainte. C'est pourquoi ils sont introduits ici. Ce que nous lisons est l'histoire de la terre sainte et du peuple de Dieu après l'établissement de la monarchie de Javan, ou grec, soit de la troisième monarchie. Je n'insiste pas sur l'histoire des relations entre le roi du Nord et le roi du Midi. Tout le monde s'accorde à y voir l'histoire des deux familles des Séleucides et des Lagides ou Ptolémées. Et l'histoire est tellement exacte que plusieurs personnes incrédules prétendent qu'elle a été écrite après les événements. Au verset 20, nous en venons au dernier de ces rois dont nous avons l'histoire ici. Je ne dis pas que ce qui est dit de ce roi s'accomplisse à la fin, mais, en tout cas, il est le type de ce qui arrivera à la fin. Toutefois, mon dessein n'est pas d'entrer dans tous les détails de la partie historique. Il a fait une expédition contre le roi du Midi, puis une seconde, au verset 29. Je passe aussi sur les détails de la conduite de ces deux rois. Ce qui suit est plus important. Au temps déterminé, il retournera et viendra dans le Midi, mais il n'en sera pas la dernière fois comme la première, car les navires de Kittim viendront contre lui. Et il sera découragé et retournera. Voici où la puissance de l'Occident, Kittim, commence à s'introduire dans cette histoire des deux monarchies. Toujours le peuple de Dieu se trouvait là entre la monarchie du Nord et celle du Sud, comme la Terre Sainte était, il y a relativement peu d'années, un objet de contestation entre Mehemet Ali et le Sultan. Mais à la dernière expédition, dont il est question ici, les navires de Kittim arrivent sur la scène. Il ne s'agit plus seulement des deux rois orientaux, mais les navires de l'Occident, de l'autre côté de la Méditerranée, que ce soit la Grèce ou l'Italie, interviennent. Ensuite, nous rencontrons ici ceux qui abandonnent la Sainte Alliance, c'est-à-dire d'une part les Juifs reconnus comme objet de l'Alliance de Dieu et ceux qui ont abandonné cette Alliance. D'autre part, ceux de l'Occident, du nord de la Méditerranée, qui se mêlent de la querelle. Ces nouveaux éléments changent complètement la scène. Alors, au verset 31, nous avons le dernier de ces rois, c'est-à-dire des rois du Nord, devant nos yeux, et des forces se tiendront là de sa part. Ces mots peuvent être employés en deux sens. Le lieutenant d'un roi, quelqu'un qui prend sa place comme commandant, ou quelqu'un qui lui succède dans la régence. Des forces se tiendront là, et elles, ces forces, profaneront le sanctuaire de la forteresse et ôteront le sacrifice continuel, et elles placeront l'abomination à cause de la désolation. Verset 31. Ce passage, je n'en doute pas, se rapporte aux actes d'Antiochus Épiphane lors de son retour d'Égypte, quand les navires de Kittim l'ont arrêté dans ses desseins. Mais la circonstance est de toute importance, quoique ce ne soit ici qu'un accomplissement partiel qui donne la figure par anticipation de ce qui arrivera à la fin, parce que l'acte même est ce qui nous donne, lorsqu'il sera réellement accompli, la date de la fin de l'indignation. Le Seigneur Jésus a attiré notre attention en Matthieu 24 d'une manière particulière sur cette date, mais en faisant allusion au verset 11 du chapitre 12 de cette prophétie, où le calcul qui sert de date au temps de la bénédiction a ces deux circonstances pour point de départ. Et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté et où l'abomination qui désole sera placée, il y aura 1290 jours. Bienheureux celui qui attend et qui parvient à 1335 jours. Pour en revenir au verset 31 du chapitre 11, quant aux forces qui se tiendront là, ce fait est arrivé historiquement. Ce sont les généraux d'Antiochus Épiphane qui ont souillé le sanctuaire. Je ne dis point que ce soit là l'accomplissement complet de la profanation du sanctuaire que l'Esprit a en vue. Le Seigneur Jésus nous apprend lui-même que cet accomplissement est encore à venir. Matthieu 24, verset 15. Longtemps après le règne de ce roi, c'est-à-dire 2 ou 3 siècles après Antiochus Épiphane, Jésus est venu au monde et a parlé lui-même de l'accomplissement de cet événement comme étant encore à venir. Nous avons encore une autre preuve très évidente de l'époque où ces choses atteindront leur dénouement final. Cette preuve se trouve au commencement du chapitre 12 de notre prophète, au verset 1. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Or, c'est précisément ce que le Seigneur Jésus dit de ce qui arrivera à la fin. Car alors, il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais. Puis le peuple de Dieu sera délivré, ce qui n'était point arrivé au temps de Jésus et ne l'est pas encore. En somme, un événement analogue à celui que le Seigneur annonce et dont le chapitre 11 nous parle est arrivé du temps d'Antiochus, tandis que le chapitre 12 mentionne son accomplissement final. C'est à ce dernier que le Seigneur fait allusion. Matthieu 24, verset 15. Quoique je ne m'arrête pas sur ce point, il est évident qu'il faut mettre de côté ici toute question de ce qui arrivera au milieu des chrétiens ou de la chrétienté, parce que ce que nous lisons est dit tout simplement de ce qui doit arriver au peuple de Daniel. Or, nous ne sommes pas le peuple de Daniel, et pour ceux qui regardent l'accomplissement final, les derniers jours ne sont pas arrivés pour les Juifs. Ayant parlé des armes, des forces qui viennent de la part du roi du Nord et qui souillent le sanctuaire, et ôte le sacrifice continuel, profanation qui a eu lieu historiquement du temps d'Antiochus Épiphane. Note 1. Apollonius était le nom du général envoyé par Antiochus lors de son retour d'Égypte pour accomplir cette profanation, mais qui aura un accomplissement bien autrement important au dernier jour, ce qui donne lieu à mettre le fait en saillie, l'abomination qui cause la désolation. Le prophète continue l'histoire en général. Et par de douces paroles, il entraînera à l'impiété ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'Alliance. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. Verset 32. Remarquez maintenant l'état du peuple de Dieu lorsque ces malheurs arriveront à Jérusalem. La première chose, c'est que le roi du Nord qui sera dans ce moment-là dans le pays de Canaan fera pécher par flatterie ceux qui se comporteront méchamment à l'égard de l'Alliance, c'est-à-dire les Juifs qui seront infidèles aux espérances juives elles-mêmes. Il les poussera à l'apostasie, note 1, ou les induira à l'apostasie, à se rendre profanes. Je m'étends sur ces circonstances de l'histoire, bien que je la croie accomplie, parce que je crois que l'Esprit de Dieu les mentionne pour mettre en relief les éléments de l'état des Juifs jusqu'à la fin, malgré l'immense parenthèse que le rejet du Messie a introduite dans leur histoire. Fin de la note. Car c'est là la force du mot traduit par « entraîner à l'impiété ». Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. Nous voyons ici les fidèles et les infidèles et le développement du bien et du mal. Il y a encore une chose à remarquer. Les sages du peuple enseigneront la multitude. Verset 33. Ce sont les maskilim, des personnes instruites dans les pensées de Dieu, classe tout à fait à part. Les sages comprendront, comme il est dit au chapitre 12, verset 10. Je trouve ici un résidu des Juifs, non seulement ceux qui en général seront épargnés, mais des personnes instruites des pensées de Dieu, ces mêmes sages mentionnés aussi au chapitre 12, verset 3. Le même résidu, spécialement distingué dans les derniers jours, se trouve désigné en Ésaïe 65 et 66, outre d'autres, qui échapperont au jugement qui sera exécuté contre les méchants. Ces personnes instruites d'entre le peuple, verset 33, enseigneront la multitude, ou leur donneront instruction. Note 1, multitude, ou littéralement, les plusieurs, mot qui s'emploie dans ces chapitres spécialement dans le sens de multitude. Voici les passages où cette expression se trouve. Chapitre 9, verset 27, chapitre 11, versets 33 et 39, et chapitre 12, verset 3. Dans les chapitres 11, versets 34 et 44, et 12, versets 4 et 10, ce n'est pas le cas. Fin de la note. Et ils tomberont par l'épée et par la flamme, par la captivité et par le pillage, plusieurs jours. Tel est l'état du peuple. Note 2. À moins que l'on veuille l'appliquer au masculin, mais je ne pense pas que ce soit le sens à cause du verset 35. Fin de la note. Et quand ils tomberont, ils seront secourus avec un peu de secours, et plusieurs se joindront à eux par des flatteries. Et d'entre les sages, il en tombera, savoir par l'épée, pour les éprouver ainsi, et pour les purifier, et pour les blanchir, jusqu'au temps de la fin. Car ce sera encore pour le temps déterminé. Versets 34 et 35. L'épreuve de la foi sera par leurs moyens, parce que, comme juifs fidèles, on aurait pu supposer, ceux-là peuvent compter sur le secours de Dieu, ils en ont encouragé d'autres à se confier en l'Éternel. Néanmoins, quelques-uns d'entre eux tomberont, et alors si la foi n'est pas ferme, les autres pourront dire « Où est leur Dieu ?» comme dans les psaumes 42 et 43, psaumes qui expriment dans le langage de l'Esprit de Christ l'angoisse de ce résidu auquel les ennemis diront « Où est ton Dieu ?» Or voici que les intelligents, ceux qui avaient leur confiance en Dieu, tombant comme les autres, les incrédules diront « Dieu n'intervient pas en leur faveur ». Ces paroles donc nous présentent l'histoire du peuple depuis le temps d'Antiochus Épiphane jusqu'au dernier jour. Cette histoire est donnée en termes généraux pour reprendre ensuite le fil des détails lorsque le roi du Nord sera de nouveau sur la scène et que les circonstances seront l'accomplissement final de ce dont l'histoire d'Antiochus a présenté un tableau partiel. Le peuple est laissé tout ce temps-là, en général, à passer par ses épreuves et à subir la conséquence de sa position.